Sons d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et nous partons tout de suite dans l'est de l'Ukraine. Vendredi, la cloche a sonné pour le dernier jour de classe dans l'école de Novotochkivské. Comme le veut la tradition, c'était jour de fête. Une fête dans une atmosphère un peu particulière. L'école se trouve à seulement 1,5 km de la ligne de front. Les tirs et les bombardements sont constants dans la région qui déplore 13 000 morts en 5 ans, selon un dernier bilan de l'ONU. Et ce n'est pas sans conséquence sur la vie des écoliers. C'est le reportage sur place de Sébastien Gobert.
Des chansons, des défilés, des sketchs, des danses. La fête de la dernière cloche, la fin de l'année scolaire, est une grande célébration traditionnelle dans la région du Donbass. Pour les enfants ici, c'est une nouvelle année qui se termine. Une année qui a été moins difficile que les précédentes, selon l'une des jeunes élèves.
Avant, les bombardements avaient tout détruit. Il y avait des objets dangereux, tout était en très mauvais état. Les rénovations sont très importantes pour tous, mais en particulier pour les petits. Ils courent partout et heureusement que l'environnement est sécurisé. Ils vont encore passer des années ici. C'est important pour eux.
À l'intérieur, en effet, l'école rutile. Les couloirs sont fraîchement repeints, les fenêtres sont neuves, le toit est étanche. Une véritable amélioration que la directrice Olena Zgruska, employée dans l'école depuis 29 ans, salue, d'autant que la guerre continue.
Il y a eu des morts dans le village, surtout au début où les gens ne faisaient pas attention, ils sortaient dans la rue pendant les bombardements. L'école a été bombardée en 2015, le dernier tir sur la ville, c'était l'été dernier. Mais les duels d'artillerie sont constants, rien qu'avant-hier, il y en a eu un terrible.
Au plus fort des combats, l'existence même de l'établissement était remise en question.
En 2014 et 2015, il n'y avait que 13 enfants qui continuaient à venir à l'école. Tout le monde avait quitté la ville. Peu à peu, ils ont commencé à revenir et aujourd'hui, nous avons 70 écoliers et 26 enfants à la crèche, donc 96 en tout.
La situation s'est aujourd'hui calmée, mais 14 établissements scolaires le long de la ligne de front ont été touchés par les combats entre janvier et avril. À Novotochkivské, l'équipe enseignante a appris tant bien que mal à gérer les épreuves. Yelena Volodymyrevna a suivi une formation accélérée en psychologie de crise.
Certains enfants ont peur, mais pas tous. Quand ça commence à tirer, ils continuent à se promener dans la rue et à jouer. Ils se sont déjà adaptés.
La difficulté de Yelena Volodymyrevna tient justement aux diverses réactions des enfants et aux manières de percevoir leur traumatisme.
Ma fille, par exemple, elle court se réfugier à la maison dès qu'on entend les premiers tirs. Elle a très peur. En 2014, nous avions quitté la ville pour fuir les combats, mais nous sommes revenus car nous n'avions pas les moyens de louer un appartement ailleurs. Ma fille ne comprend pas que l'on soit revenu.
Pour faire face à ces situations, l'école s'est dotée d'une salle de relaxation. On y trouve une piscine à boules, des coussins, des livres et des jeux pour que les enfants puissent exprimer leurs sentiments.
Les enfants dessinent avec le sable sur cette table. Ils font ce qui leur plaît et à partir de leurs dessins, on peut évaluer leur état psychologique. En général, ce sont des soleils, des dessins qui les font se sentir en sécurité.
Alors que l'Ukraine entame sa 6e année de guerre, les populations civiles restent plus que jamais exposées aux violences. L'ONG Save the Children démarche le gouvernement ukrainien pour qu'il soutienne une déclaration internationale sur la sécurité des écoles. Dans ce cadre, le jeune Rostislav Soldatkou, 14 ans, s'est récemment rendu à Kiev pour y défendre l'idée auprès des autorités.
J'ai raconté ce que l'on vivait ici. La déclaration de l'ONU sur la sécurité dans les écoles est très importante dans les circonstances actuelles, à la fois pour notre région, mais pour toute l'Ukraine. Dans d'autres pays civilisés, la déclaration a déjà été signée et notre pays ne peut pas rester en arrière.
On compte 90 signataires à travers le monde. Mais à supposer que le gouvernement ukrainien la soutienne et en tire les conséquences pratiques, les belligérants de l'autre côté de la ligne de front ne sont pas signataires. La déclaration n'arrêtera donc pas les combats qui sont provoqués par les deux côtés. De plus, l'essentiel des bombardements ont lieu la nuit à une heure où les écoles sont vides. La signature de cette déclaration est vue comme une simple étape de plus vers une solution politique pour amener la paix. Or, les rencontres que Rostislav Soldatkou a pu avoir à Kiev ne l'ont pas rassuré.
Les gens de la capitale ne comprennent pas ce qui se passe ici. Ils ont leurs propres problèmes, leurs priorités. Malheureusement, ils n'ont aucune idée des difficultés que l'on vit au quotidien.
À peine élu président, Volodymyr Zelensky a fait de l'arrêt des combats une priorité. La manière de relancer les négociations de paix avec Vladimir Poutine reste cependant un mystère. L'instauration d'une paix prochaine est la priorité numéro un des habitants, la directrice Olena Zgrouska.
Moi, je n'ai qu'un souhait, que la paix revienne, que les habitants qui sont partis à cause de la guerre puissent rentrer à la maison, que l'école se remplisse de plus en plus d'enfants, parce que c'est mon travail, c'est ma vie.
Le retour à la paix et à des conditions de vie normales est une question existentielle pour Novodochivské. Dans cette ancienne ville minière, il y a peu de perspectives économiques. Si la guerre s'éternise, ni Rostislav Soldatkou, ni aucun des élèves rencontrés ne voudra rester ici, une fois qu'aura sonné la toute dernière cloche dans cette école.
La bataille pour les postes dans l'Union européenne a commencé. Qui pour la présidence de la Commission, du Parlement, de la diplomatie? La question agite à Bruxelles. Une autre nomination doit aussi être arbitrée, celle du procureur qui prendra la tête du parquet européen fin 2020. Ce parquet aura le pouvoir d'enquêter, d'engager des poursuites sur des infractions portant atteinte au budget de l'Union européenne, comme la fraude, la corruption ou le blanchiment des capitaux. Pour le moment, seuls 22 États ont adhéré à cette nouvelle institution. La Hongrie, notamment, refuse d'y prendre part. Pourtant, un élu milite depuis des mois pour que ça change. Il s'agit du député Ákos Ádási, champion de la lutte anti-corruption Anissa El-Jabri.
Le combat d'Ákos Ádási, c'est d'abord l'histoire d'une déception qui s'est muée en colère froide, puis en combat quotidien. Cheveux poivre et sel et petite barbe, haute taille, débit clair, mettons, passionné. L'ex-vétérinaire, aujourd'hui député de l'opposition sans étiquette, a commencé sa vie politique à l'échelon local.
Jusqu'à 2013, j'étais conseiller municipal du Fidesz, le parti de Viktor Orban, dans une petite ville. Comme membre du conseil entre 2006 et 2013, je me suis rendu compte que les détournements d'argent devenaient de plus en plus fréquents, de plus en plus importants, de plus en plus grossiers. Jusqu'en 2010, quand le Fidesz était dans l'opposition, j'avais espoir que ces affaires ne concernaient que notre ville et notre maire. Mais au contraire, dès l'arrivée de ce parti au pouvoir en 2010, j'ai pu constater que le Fidesz construisait une association de malfaiteurs de grande envergure, dont l'objectif principal est de voler, vraiment voler à proprement parler, l'argent en provenance de l'Union européenne.
Ce clientélisme décomplexé, c'est aussi un quotidien pour Blanca Zöldi, la trentenaire et journaliste sur le site internet Direct 36, spécialisée dans les enquêtes. La corruption d'État, c'est pour elle et plusieurs de ses confrères un travail à temps plein, mais de là à utiliser l'expression d'État mafia qu'on voit fleurir sur les réseaux sociaux, Blanca Zöldi.
Parler d'État mafia, ça me semble un peu fort, un peu exagéré. Mais c'est vrai qu'on peut dire que certains milieux d'affaires proches du gouvernement se sont enrichis de façon assez surprenante depuis que le Fidesz est revenu au pouvoir. Un cas intéressant ces dernières années, c'est la fameuse affaire Helios. Il s'agit de chantiers d'éclairage public menés par une entreprise liée au gendre de Viktor Orban. Des journalistes, dont certains de Direct 36, ont sorti beaucoup de révélations à ce sujet, sur notamment la façon dont les appels d'offres ont été calibrés, fait sur mesure pour cette entreprise et la manière dont l'argent de l'Union européenne a été utilisé et détourné. Après la parution de ces articles de presse, l'OLAF, l'organe de l'UE en charge de la lutte contre la corruption, a ouvert une enquête et des soupçons d'abus sur ce dossier ont été mis en lumière. Malgré cela, les autorités hongroises n'ont pas voulu donner suite et ont déclaré qu'il n'y avait pas d'irrégularité dans ce marché.
Les enquêtes à Ákos Ádási s'y est mis lui aussi des heures, entouré d'une toute petite équipe à tout éplucher, dénigré par les médias officiels, menacé, le député s'est aussi lancé dans un combat parallèle, l'adhésion de la Hongrie au parquet européen, Ákos Ádási qui depuis 8 mois a lancé une pétition.
Le but de cette collecte de signatures, c'est d'empêcher le Premier ministre de se défausser en expliquant que le parquet européen, les Hongrois n'en veulent pas. Nous, députés de l'opposition, nous avons la responsabilité que le pays puisse continuer à bénéficier de ces fonds, de montrer qu'on peut contrôler leur utilisation. Car sinon, pourquoi nous donner de l'argent si on sait qu'ici on le vole? Je ne pense pas que les citoyens européens seraient contents s'ils avaient connaissance de la situation. D'ailleurs, ça serait une revendication compréhensible de la part de l'Union européenne de conditionner l'accès aux fonds européens par cette adhésion, de dire pas d'adhésion au parquet européen, pas d'argent européen.
Sans accès aux médias et presque isolé, Akhochadazi a réussi à collecter plus de 600 000 signatures dans un pays qui compte moins de 10 millions d'habitants.
L'initiative existe dans plus de 50 villes italiennes. Son nom, Retake, un terme anglais qui décrit parfaitement le concept. Reprendre les villes, se les réapproprier en luttant contre les incivilités qui sont monnaie courante. Dans les espaces publics, saletés, graffitis, déchets sont légion. Des citoyens volontaires nettoient tout pour revaloriser le patrimoine. Reportage à Palerme, Cécile Debarge.
À l'ombre des grands arbres de la place Tredici Vittime, dans un coin du petit parc qui s'y trouve, Giacomo et Cristina s'affairent depuis une demi-heure déjà pour redonner un coup de jeune à un vieux banc au verre décati.
On essaie d'enlever ce qui reste de la couche de vernis sur le banc et puis on le nettoiera. Je pense qu'ensuite on le peindra en rouge. Qu'est-ce que t'en dis ?
Cette matinée-là, les citoyens bénévoles de l'association Retake Palermo nettoient, décapent et repeignent tous les bancs de la place. Giacomo n'en est pas à sa première. Il participe régulièrement aux opérations de nettoyage et de valorisation du patrimoine organisées par l'association.
Souvent, ce sont des jardins publics qui ne sont pas en excellent état ou bien des espaces verts qui sont mal entretenus.
Un peu plus loin, une autre partie du groupe s'attaque à de grandes palissades de chantier à l'abandon, recouvertes d'affiches électorales et de publicités en tout genre. Laura Mistretta tente de décoller de vieux morceaux de papier dont on ne reconnaît même plus la couleur.
Ces publicités du cirque Orfeil remontent à 10 ans au moins. Et même si elles sont sur des murs de chantier qui finiront par être enlevés, mais dans des temps bibliques qu'on connaît à Palerme, eh bien ça vaut le coup. Quand on aura tout nettoyé, des artistes repeindront les palissades.
Tout au long du week-end, les bénévoles se relaient du matin au soir afin de rendre fière allure à la place Tredici Vittime. Marco D'Amico est le président de l'association qui existe désormais depuis 3 ans.
Retake s'occupe de la reconquête des espaces urbains. Tous les 15 jours environ, on sort de chez nous. On ne reste pas à la maison ou sur les places à se plaindre. On revalorise nos villes, on nettoie nos rues, nos places, les tags, les graffitis.
Au total, l'association compte 38 inscrits, un chiffre auquel s'ajoutent régulièrement de nouveaux participants, explique Marco D'Amico.
Il y a aussi des participants occasionnels à Retake, ceux qui viennent 2 ou 3 fois, les gens de passage. Il y a beaucoup de touristes aussi, qui ne sont pas de Palerme, qui voient les activités sur notre page Facebook et nous prêtent main forte. Et puis, il y a plein de migrants qui viennent nous aider.
Laura Mistretta, elle, habite à Palerme, dans un autre quartier que celui où a lieu l'opération de nettoyage cette matinée-là, mais peu importe, l'essentiel pour elle est de contribuer au changement de sa ville et, espère-t-elle, des mentalités des habitants.
Je reconnais que j'admire beaucoup les Français pour le soin qu'ils mettent à entretenir leurs immeubles, leurs rues. Ici, on a par exemple de superbes ponts romains, mais personne ne les voit parce qu'ils sont recouverts de mauvaises herbes, d'arbustes et ils sont complètement laissés à l'abandon.
Derrière ce laisser-aller, elle déplore un manque de civisme de la part des palermitains.
Bien souvent, les habitants ont tendance à dire que c'est de la faute de la mairie. Effectivement, elle a ses torts. Mais les habitants pourraient aussi éviter d'ajouter de la saleté et du désordre. Ça doit être un effort commun.
Si la ville a fait des efforts en termes de propreté ces dernières années, il reste encore du chemin pour lutter contre les petites incivilités du quotidien. Dégradation du mobilier public, graffitis en tout genre, y compris sur les monuments historiques, mégots jetés par terre, sacs poubelles abandonnés sur les trottoirs. Certains habitants s'avouent vaincus d'avance, regrette le président de l'association Retake Palermo.
Les habitants et les commerçants sont un peu défaitistes, mais c'est parce qu'ils sont dépités. Ils nous disent « Ok, c'est bien beau, vous nettoyez tout, mais dans 2-3 jours, ça redeviendra comme avant. » Mais dernièrement, on remarque un changement chez les palermitains et ça nous donne de l'espoir.
La solution, c'est de profiter des opérations de nettoyage pour montrer l'exemple et sensibiliser les palermitains.
On ne débarque pas comme ça sur un quartier comme une prise d'assaut. On essaie d'inclure les habitants, les commerçants, les associations. l'éducation du quartier. On essaie aussi de faire des opérations de sensibilisation dans les écoles.
Plusieurs ateliers de sensibilisation sont organisés dans les écoles de la ville avant les vacances scolaires. La dernière grande opération de nettoyage, menée avec près de 160 enfants de primaire, a permis de ramasser près de 200 kilos de plastique sur la place Virginie Maria, qui devrait prochainement être aménagée en parc avec des jeux pour les petits réalisés à partir de plastique recyclé.
Bruxelles, Bruxelles, tu m'étincelles, je suis addict au ciel de ma crypte.
Dans tes tunnels et sous tes palais, on dit que tu caches un passage secret.
Et dans la capitale belge, les habitants sont effectivement très très attachés à leur patrimoine. Il y a eu 50 demandes de classement de lieux emblématiques ces 5 dernières années. Bâtiments, arbres, places et même des pavés. La Commission royale de bâtiments accède d'ailleurs souvent à cette demande, l'ex-Milota.
Des particuliers ou des associations peuvent adresser leurs demandes à la Commission royale des monuments et des sites. Un homme, passionné d'histoire, a ainsi passé ses 10 dernières années à Bruxelles à tenter de sauver une longue route pavée, l'avenue du port. Patrick Wouters a été guide touristique bénévole pour le patrimoine industriel du 19e siècle. Ces pavés, il y tient donc énormément. L'avenue industrielle et portuaire date de 1905. La région souhaite remplacer les pavés par du goudron. Ce serait une perte pour le patrimoine, estime Patrick Wouters, qui espère le classement de l'avenue du port au patrimoine. Les habitants introduisent souvent ces demandes de classement car c'est leur dernier recours contre un projet immobilier. À Ixelles, par exemple, un ancien supermarché est devenu un atelier de street art car les riverains ont découvert qu'il s'agissait d'une ancienne patinoire à roulettes de 1907. Ils se sont alors opposés à la construction de logements. Place du Jeu de Balle, c'est un abri anti-aérien qui a été classé grâce aux habitants. Un projet de parking souterrain était prévu dans ce lieu de mémoire datant de la Seconde Guerre mondiale. Depuis 2014, ce sont ainsi 16 lieux qui ont été classés grâce à l'amour des Bruxellois pour le patrimoine de leur ville.
Et malgré la mobilisation des citoyens, certains patrimoines sont en danger, comme à Zagreb, en Croatie, où un lieu mythique du 7e art vient de baisser le rideau. Le Kino Europa était depuis longtemps dans le viseur des autorités municipales à cause de son engagement très à gauche, Simon Rico.
Officiellement, la fermeture du Kino Europa doit permettre d'effectuer des travaux de rénovation, mais la mairie de Zagreb n'a pas caché sa volonté de reprendre en main la direction du plus célèbre cinéma de la ville. Le Kino Europa avait ouvert le 8 avril 1925, à l'époque où la Croatie faisait partie de la Yougoslavie royale. Il avait ensuite survécu à la Seconde Guerre mondiale, à la censure du régime titiste et à la dérive nationaliste des années 1990. Classé art et essai, ces salles faisaient partie du réseau Europa Cinéma, qui lui avait même décerné le prix de la meilleure programmation il y a 3 ans. C'est justement à cause de sa programmation audacieuse que le Kino Europa passe aujourd'hui entre les fourches codines de l'indéboulonnable maire de la capitale croate, Milan Bandic, invariablement réélu depuis 20 ans malgré de multiples scandales de corruption. En coalition avec l'extrême droite depuis l'an dernier, Milan Bandic a refusé de renouveler le contrat d'exploitation de la direction actuelle. Cette décision a provoqué un tollé en Croatie et même au-delà, un grand mouvement de soutien s'est vite organisé et la ministre de la Culture croate a personnellement pris position contre cette fermeture, mais rien n'y a fait. Le producteur, Boris Tematic, qui avait repris le Kino Europa en 2008, ne cache pas sa colère, dénonçant l'attitude autoritaire de la mairie. Chaque année, son cinéma accueillait plus de 100 000 spectateurs et une vingtaine de festivals, dont le fameux Zagreb Film Festival, véritable tremplin pour les jeunes réalisateurs des Balkans. Aux yeux de nombreux Zagrébois, c'est l'un des derniers bastions de la culture indépendante croate qui disparaît aujourd'hui. Avant l'Europa, 2 autres célèbres cinémas de la capitale croate avaient fermé leurs portes, le Gritch et le Zagreb, qui a été transformé en centre commercial.
Françoise Grelot était à la réalisation et à la mise en onde. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux.